Litron dans la poche, traînant la galoche, voici que s'approche le clodo. Tous les 15 mètres, minute, il s'arrête pour visser sa tête à son goulot. Sur un banc bien stable de l'avenue Junot, il se met à table, sort son livaro. Allez, salut Claude, Jean-Pierre à Saint-Thierry.
Salut Daniel, je suis en deuil comme des milliers de Toulousains. Et ce sud tout entier que représentait à lui seul ce troubadour à l'accent rocailleux et ensoleillé, Nogaro. Claude est mort et nous sommes orphelins. La ville est rose ne le sera plus autant, car qui va chanter la couleur de ses briques maintenant? Désormais nos maillots sont plus noirs que rouges, et nos cœurs moins vaillants n'ont plus envie de castagne, mais de calme et de silence. Arrêtez le chaos de la ville, le bruit des voitures, nos yeux pleins de larmes et nos oreilles engourdies, soit une dernière fois regarder le soleil se lever sur le toit des minimes, en cherchant peut-être ton ombre, Claude. Ton ombre, prête à prendre son envol bercé par la douce musique du chant des oiseaux qui en secret siffle au Toulouse, comme tous nous l'avons fait un jour. Tu avais 74 ans, mais qui aurait dit que le petit taureau semelle de swing allait nous faire ce coup-là, nous qui espérions te voir chanter jusqu'à 90 ans. J'arrête là car ma gorge est sèche d'avoir déjà trop pleuré, et je retourne à ce prie-Dieu où parfois tu t'agenouillais pour prier ton père, et d'où désormais nous nous recueillerons en pensant à toi. Au revoir Claude, et le bonjour aux anges qui t'attendent maintenant. Didier, Toulouse.
Putain, je suis à bout de souffle, Nogaro, bordel de Dieu, Nogaro, c'est pas Toulouse, Nogaro, c'est New York, c'est Nogayork, c'est New Jazz, c'est pas un paysan, c'est un mec qui a le swing, c'est un mec qui a le... Quel tempo, c'est quand le jazzé, là, voilà, ça me fait chier, c'est comme si on résumait les Beatles à Obladi Oblada, j'en ai marre qu'on me cause de Toulouse, voilà, parce que New York, c'était un jazzman, c'était Godard, voilà, c'était pas seulement à bout de souffle, c'était pas seulement le jazz et la java, c'était pas seulement je suis sous, etc. Je suis pas sous, moi. Et lui, il s'est saoulé la gueule de rythme, de swing, etc. Quand il chante, dansez sur moi. Je vais pas le faire, hein. Je sais pas le faire. Je suis pas chanteur. Mais quand il chante ça, combien de gens ont écouté la version originale Girl Talk? Et quand on sait que le refrain de Girl Talk, c'est Girl Talk, et ben lui, il dit rien. Quand ça fait ta-da, il ferme sa gueule alors que c'est le titre du morceau. C'est sublime, c'est délicat, c'est un type délicat, c'est un swinger. Ok, c'est un petit taureau, mais ils nous font chier les bodys, les je ne sais quoi, Toulouse, ville rose. Mais Toulouse, c'est une ville rouge et noire, comme lui. Ciao.
Je suis attristée par le départ de Monsieur Claude Nogaro. Quel homme! Je suis tout émue. Ton talent, ton âme de poète, ta chaleur que tu savais nous apporter sera toujours là. Mais surtout, chante là-haut pour tous ceux qui savent t'écouter et t'aimer. Merci.
Très, 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 très émue par la mort de Claude Nogaro. J'ai 25 ans. Voilà, j'ai appris son décès aujourd'hui, comme tout le monde, par la radio. Je vivais à Toulouse l'an dernier. Je suis allé jusque devant sa maison pour le rencontrer. Malheureusement, je ne l'ai pas croisé. Voilà, mes parents m'ont fait découvrir ce chanteur il y a 20 ans et depuis, je l'écoute toujours. Voilà, donc je voulais laisser ce message.
Oh, Toulouse, tu verras
tous les gens qui aiment et qui ont aimé ce chanteur.
Ouais, tu as perdu l'enfant du pays, là, Claude. Et ben, l'enfant de la Garonne.
Voilà,
c'est fini, le poète est mort. Bon, quand il est mort, le poète, comme dirait l'autre.
Voilà,
eh ben, bonne continuation là-bas si j'y suis. Hein. Bon, bah, il va y avoir pas mal de matchs, je suppose. Allez, bye bye, c'est un.
Le petit Claude Nogaro, il est fichu le camp. Et puis, ça m'a touché. Beaucoup, parce que je l'avais accueilli quand j'habitais à Saint-Claude, dans le temps, dans le Jura. Puis, il avait fait une petite prestation plutôt humble, plutôt sympa, plutôt amicale. Et puis, c'est assez étrange parce que j'ai voulu donner un coup de téléphone à sa fille Cécile, et puis je me suis dit, mais les coups de téléphone vont être innombrables.
Je vais apprendre la mort de Claude Nougaro, et pour moi, c'est toute ma jeunesse, mes emballements de très jeune fille. J'avais 12-13 ans, j'écoutais Nougaro, et je me battais pour lui, parce que dans ma famille, on trouvait que ce n'était pas de la musique, ni de la chanson. Et que moi je le trouvais merveilleux. J'ai mis très longtemps à aller le voir sur scène, et je l'ai vu deux fois, la dernière fois au Casino de Paris.
Je viens juste d'apprendre la nouvelle et je suis très triste. Hein. Il a bercé mon enfance, il a fait swinguer mon adolescence et il a pas fini encore de nous faire rêver. C'est vrai que Toulouse est en deuil, mais c'est vraiment toute la France qui vient de perdre. Poète,
hein, j'ai 25 ans, ça fait 25 ans que je l'écoute. Je suis très très ému. Voilà, avec lui part un dernier des monstres sacrés, Chéra Cocteau.
Voilà, le 4 mars 2004, le plus grand chanteur français vient de disparaître. Un grand chanteur, c'est pas forcément quelqu'un qui remplit les stades ou qui vend 10, 15, 20, 30 millions de chansons.
Claude Nougaro est mort.
Non, c'est quelqu'un qui...
Un poète a disparu. Hélas, hélas. Antoine Salière, le baron, machin, Salière, oui.
Un grand poète est mort, un jongleur de mots. Diable ou Dieu en tort, il était bien ce Nougaro. J'avais 16 ans, et le garçon avec qui j'étais m'a dédié cette chanson, une petite fille. C'est vrai, je l'étais. Depuis ce jour, oui, Nougaro est mon ami. J'ai tout écouté de lui, et à mon tour j'écris.
Hier, en écoutant votre antenne, eh bien, j'ai appris la mort de Claude Nougaro. Et je voudrais partager avec vous un bel instant de ma vie que je lui dois. Il y a 2 ans, peut-être 3, je suis allée voir Nougaro en concert au Summum à Grenoble. Et il a chanté à bout de souffle. Il vivait tellement sa musique et son texte que sous nos yeux, un homme traqué perdait sa vie. À la fin de la chanson, il gisait sur la scène. Et un silence vibrant régnait sur toute la salle. Excusez-moi. Je pense encore. Je me suis tournée à droite et à gauche. Et toute la rangée pleurait. On parle beaucoup des textes de Nougaro.
Vous nous cassez les couilles avec la mort de Nougaro, vous les médias. Parce que bon, bah, c'est un homme comme les autres. Bon, il est mort. Moi, je sais que j'étais un fidèle Léo Ferré. J'ai tous ses albums et tout. Et le jour où il est mort. Et bon, c'est tout. Et c'est ce qui nous attend tous. Bon, bah, ce sont pas des hommes, sont des hommes comme les autres. Ils vont pisser, ils vont chier, et puis un jour ils meurent, et puis c'est tout. Il n'y a pas aller plus loin, et puis la vie c'est comme ça. Sans vie, il n'y aurait pas de mort.
Philippe Adanassis, eh ben, ce soir le jazz et la java sont là. Claude Nougaro est parti, c'est sûr que ce soir les grands-mères n'auront plus trop goût à la castagne. Il pleut et elle ne fait pas des claquettes. Et les mêmes ma femme, à partir d'aujourd'hui, n'auront plus la même sensualité roulée dans la farine. Voilà, et ben, ça me rappelle la première fois où j'ai vu Claude Nougaro. C'était il y a bien longtemps à Marseille, au mois de juillet, au Théâtre des Étoiles. Ce soir-là, il faisait un Mistral à décorner les bœufs. Et à la fin de la soirée, Claude avait dompté le Mistral. Et Marseille s'est retrouvée au bord de la Garonne. Bonsoir.
Voilà, hommage des auditeurs de la basse où j'y suis à Claude Nougaro. C'est impossible de passer tous vos messages. Ça arrive tout le temps et il y en a de drôles, il y en a d'émouvants. Enfin, voilà, c'est ce que ça donne. D'autres messages dans un instant, suite à l'émission d'hier sur la pub. Et puis aujourd'hui, on va revenir sur l'Italie des années 70. L'affaire de Cesare Battisti, sa libération provisoire, nous donne l'occasion de revenir sur les années 70 en Italie. Au moins pour deux raisons, parce que ces années qu'on appelle toujours les années de plomb ne sont pas une chose bien précise dans notre esprit à nous autres de ce côté des Alpes. Et puis parce que bon, ben voilà, c'est les brigades rouges, c'est les terroristes, c'est les gauchistes, et puis voilà, bon. Et puis d'autre part, là, ces années italiennes nous renvoient à la violence
en politique. La violence dans la lutte politique, évidemment que nous sommes contre la violence. Bien sûr que la fin ne justifie pas les moyens, on ne lutte pas contre l'injustice par l'injustice, mais on peut tout de même tâcher de comprendre les mécanismes qui conduisent à recourir à cette violence qu'on appelle parfois le terrorisme, parfois la résistance, sans parler des moments extrêmement violents de notre histoire, comme au hasard la Commune de Paris, la Révolution française, la résistance, les luttes d'indépendance diverses et variées auxquelles on a assisté dans les années d'après-guerre, etc. Tout ça, il y a eu recours à la violence des peuples contre la violence d'État, contre le... C'est pas un sujet qu'on peut balayer comme ça d'un revers de main moral et vertueux. Voilà pourquoi on va revenir sur cette époque avec l'un des mouvements qui s'appelait Lotta Continua, la lutte continue, et avec l'une des grandes figures de ces années-là qui s'appelle Sofri. Après les répondeurs, après les messages sur le répondeur, dont je rappelle le numéro, très troublé par ce morceau derrière qui est si beau. 01 56 40 37 37. Autre message.
Non, 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 monsieur Mermet. La pub est pas con. La pub nous rend pas con. La pub est beau. La pub nous rend beau.
No brain, no pain. Effectivement, libéré de la contrainte qu'implique la pensée, l'homme ne pense plus qu'il a perdu la liberté de penser. Eh bien, bravo Daniel pour tes émissions ô combien éclairantes sur la pensée unique, le décervelage et aussi encouragement aux assos anti-pub dans leurs actions citoyennes et de salubrité publique. Mais dans le prolongement de ce sujet, pourrais-tu nous faire un reportage sur l'audimat afin de nous expliquer comment ça marche? Car moi j'ai cru comprendre que les télés ou les radios pouvaient contrôler à chaque instant leur taux d'audience. Et partant de ce principe, je me fais un devoir de zapper dès que j'entends un jingle annonciateur de pub. En me disant que si tout le monde faisait pareil, il arrivera un moment où ces maîtres à pensée uniques, fatigués de s'époumoner dans le désert, finiront bien par fermer leur gueule. Car comme disait de la Boétie, pour se libérer du tyran, il n'est pas nécessaire de le tuer, il suffit de ne plus l'écouter, et il n'est alors plus rien et il s'écroule.
Bonjour Daniel. Hier, dans votre émission consacrée au totalitarisme et à la nocivité de la pub, vous avez oublié de parler du coût pour tous les consommateurs de cette entreprise de desservelage. Quand on achète un paquet de nouilles, ou de lessive, ou une savonnette, ou une mobilette, ou encore un kilowatt d'électricité, un litre d'essence, une bouteille de gaz, etc., etc., on finance des parasites de tout poil, genre ces gars-là, aussi la télépoubelle, genre TF1, et donc aussi les stars du ballon rond, les shootés de la petite reine, du tennis, etc., etc. Et ça nous coûte certainement bien plus cher que la redevance. Ce serait intéressant de chiffrer cette contribution indirecte du consommateur pour financer toutes ces pollutions. Bien le bonjour, Daniel.
Salut Daniel, c'est Olivier de Caluire. J'écoute ton émission sur la pub et je réalise que on dit que les fumeurs imposent la cigarette aux autres, mais toute la publicité nous est imposée et la loi elle est carrément pour elle, quoi. Et l'autre jour, dans une salle d'attente médicale, j'ai demandé à éteindre la télévision, parce que c'était que de la pub, et la secrétaire m'a regardé comme si j'étais anormal, quoi. Et c'était le même problème que si j'avais demandé à quelqu'un d'éteindre sa cigarette, mais c'était moi qui n'étais pas normal, quoi. Enfin, voilà. Bravo pour tes émissions. Salut, Daniel.
Bonjour, j'aime beaucoup les émissions de Daniel Mermet, mais alors là, François Brune, on ne le laisse pas parler, et il devait vraiment parler de la décroissance, et ça m'énerve, parce que il n'est pas question que de barbouiller les affiches. Il faut parler de la décroissance, arrêter la consommation. Alors, c'est vraiment énervant.
Ici Melun, Robert Johnson vous parle. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de votre intervention du 4 mars, qui parle enfin des 62 personnes contrôlées dans le métro, lors d'une action collective de barbouillage, non violente, pour lutter contre l'agression publicitaire. Ils sont assignés en justice le 10 mars par la RATP Métrobus qui leur réclame la somme de 1 million d'euros au tribunal de grande instance de Paris. Ce sont pour la plupart des jeunes, des lycéens, des étudiants, des précaires. Pour assurer leur défense juridique, Une collecte de fonds a été mise en place par le collectif 62. Vous pouvez adresser vos dons à l'ordre du RAP, Résistance à l'agression publicitaire, à l'adresse suivante. RAP, 53 rue Jean Moulin, 94300 Vincennes. Ou alors, consultez le site www.antipub.net. Au revoir et bonne chance.
Oui, bonjour, c'est Patrick de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Je voulais simplement me poser la question et poser la question à tout le monde. Les fameux pirates du rail là, après lesquels on est en train de courir, est-ce que ce serait pas les Ben Laden de Raffarin? Est-ce qu'on ne risquerait pas de les retrouver juste avant le premier tour des régionales, par exemple, comme Ben Laden risque d'être retrouvé dans les 8 mois qui viennent? Voilà, c'est tout, c'est une réflexion, c'est peut-être cynique, c'est peut-être idiot. Salut.
Non, 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 monsieur Mermet, la pub est pas con, la pub nous rend pas con. La pub est beau, la pub nous rend beau.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec Francesco Giorgini... Lotta continua.
Flight number 2, arriving from New York.
Dans le corps est enfermé, l'esprit n'existe pas. C'est une simulation d'esprit. Ce qui vaut, c'est le corps. Je pense que chaque fois que quelqu'un lit mes articles, je ne sais pas les choses que j'écris, et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont écrits en prison, ça c'est une défaite pour moi. J'étais le leader indiscutable, comme on dit, de Lotta Continua.
De quoi vous vous nourrissez pour écrire?
De rien, c'est pour ça que je peux écrire. Je me sens comme les clochards qui se promènent pour Paris, je ne sais pas, au long de la Seine, avec une très longue traîne de cartons, comment se dit, de scatole de cartons, etc. Je me promène avec mon passé lié avec une petite corde, et tout ça.
Un beau prénom de Nana, Lotta. Ça fait beau, hein, Lotta. On imagine un beau brin de brune, une gourmande, une lipue. Un buisson ardent sous un drapeau rouge, Lotta continua. Que reste-t-il de tout cela dans les ruines des années où nous sommes tant aimés? On va faire un petit détour par le passé de ceux qui du passé voulaient faire table rase. À l'heure où, ça et là, en Europe, les enfants de l'apathie ont l'air de se remotiver, c'est peut-être pas mal d'aller voir ces papis-là. Et puis, en Italie, il y a un climat social et politique qui est quand même assez tendu. La contestation qui s'exprime face au gouvernement de Monsieur Berlusconi, d'une part, d'autre part les événements de Gênes, tout cela renvoie un peu à l'histoire des années 70 en Italie. Et puis, il y a eu l'assassinat de Marco Biagi, qui est conseiller du ministère du Travail, assassinat qui a été revendiqué par les Brigades Rouges, ce qui, évidemment, ne manque pas de réveiller les fantômes de ces années 70 qu'en Italie, on appela les années de plomb. Et c'est dans ces années de plomb qu'on va se replonger. Alors, il faut se souvenir de ce que furent ces années 60 en Italie. Une forte contestation s'est développée. Je dis bien années 60, c'est avant 68 que tout commence. Et puis, en décembre 69, le 12 décembre 69 exactement, un attentat à la bombe à la Banque de l'Agriculture à Milan qui fait 16 morts. L'attentat est attribué à des anarchistes dans un premier temps, mais quelques petits juges courageux, dont l'Italie a le secret, démontreront par la suite l'implication des franges de l'extrême droite néofasciste avec le soutien de certains agents des services secrets. Il s'agissait pour eux de créer les conditions politiques d'un tournant autoritaire. C'est une vieille manœuvre facho qui pourrait très bien avoir lieu chez nous. D'ailleurs, cette manœuvre, si on se promène un peu dans notre histoire de France, eh bien, certains y ont eu recours en vain jusque-là. Alors, il y aura du côté de ce terrorisme-là, de ce terrorisme fasciste, on va l'appeler le terrorisme noir, si vous voulez, une douzaine d'autres massacres du même genre qui ensanglanteront la péninsule jusqu'au carnage de la gare de Bologne, qui fit 84 morts, souvenez-vous, en août 1981. Mais, étrangement, c'est le terrorisme rouge des brigades rouges qui est resté le symbole sanglant de ces années de plomb. Et là, on va parler d'un autre mouvement. Il y a eu une pléiade de mouvements dans ces années 60, mais l'un des plus célèbres, à côté de celui des brigades rouges, fut l'OTA continua, la lutte continue, vous aviez compris. La grande différence entre les deux mouvements, c'est que l'un était strictement pacifiste, l'OTA continua, alors que l'autre avait recours à la lutte armée. Et pourquoi parler de l'OTA continua? Parce que on va rencontrer cet homme singulier dont vous avez entendu la voix, qui s'appelle Adriano Sofri. Cet homme est actuellement en prison, à Pise, à la prison Don Bosco à Pise, et on peut lui rendre visite assez facilement, disons, quand on est journaliste, ou bien quand on est personnalité. Adriano Sofri est ami de Salman Rushdie, comme de Massimo D'Alema, oui, de Dario Fo, comme de Pierre Vidal-Naquet. Il reçoit dans sa prison, et c'est un intellectuel influent, brillant, qui, je disais, chaque jour publie des articles, des éditoriaux dans la presse italienne. Son point de vue est très recherché. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, le Adriano Sofri? Eh bien, son histoire, en quelques mots, il est donc, comme je le disais, le fondateur de l'ex-mouvement d'extrême gauche, l'OTA continua, et il a été condamné à 22 ans de prison pour avoir ordonné le meurtre en 1972 à Milan d'un commissaire de police. Mais il a été condamné il y a très peu de temps, parce que entre le meurtre de ce commissaire en 1972 et le temps qu'un témoin repenti, comme on dit, se réveille et vienne faire des déclarations, il s'est passé beaucoup d'années, puisque ce témoin, ce repenti, a fait des déclarations en 88. Ça a été une histoire judiciaire absolument ubuesque. Il y a eu 8 procès. Parfois, Sofri a été acquitté, a été mis en prison et ressorti de prison. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il est en prison et qu'il tient à y rester en faisant, on va le voir, le maximum de tapage depuis sa prison. On lui propose des solutions où il pourrait aménager un peu sa peine, c'est-à-dire comme le font pas mal de ces politiques en Italie, je pense à ceux des Brigades Rouges, qui, on dort la nuit dans la prison, puis dans la journée on peut sortir. Non. Adriano Sofri veut faire sa peine et ne veut aucun aménagement. En fait, il ne veut pas demander une réduction de peine, puisqu'il considère qu'il n'est absolument pas coupable. Il a été condamné avec deux de ses camarades, Ovidio Bonpressi et Giorgino Pietro Stefani. L'un, Bonpressi, a été libéré pour maladie, et Giorgio Pietro Stefani, vit, lui, en France, où il a trouvé asile. Alors voilà, c'est cet homme qu'on va rencontrer dans sa prison, autant pour cette histoire incroyable qui est la sienne, qui ressemble tout à fait à une chasse aux sorcières, à un procès en sorcellerie que pour l'homme singulier qu'il est, le penseur, le philosophe, l'homme engagé qu'il est, lourde, chargé, disons, de cette longue et précieuse expérience. Adriano Sofri, la lutte continue. Retour donc sur ces années qu'on appelle les années de plomb en Italie, aux années militantes de ce mouvement qui a été très important à un moment en Italie, qui s'appelait Lotta Continua. On va rencontrer donc Adriano Sofri qui en était, on va dire, le leader, qui en était l'âme. Mais pour présenter Adriano Sofri, eh bien voilà Bruno Giorgini qui est un ancien, lui aussi, de Lotta Continua. Il enseigne aujourd'hui la physique à l'université et il nous a accompagnés dans cette visite à son ami Adriano Sofri à la prison Don Bosco de Pise. Alors puisqu'on attend à la porte de la prison, eh bien Bruno Giorgini nous explique un petit peu qui est Adriano Sofri.
Adriano Sofri est aujourd'hui une référence très large en Italie comme fermeté morale, je voudrais dire force morale et capacité de voir l'éthique, de construire une éthique pratique.
Quel homme il était? Est-ce que tu te souviens par exemple de la première fois que tu l'as rencontré, ta rencontre avec lui?
La première fois c'était à Pise.
Ici même, là où on est, dans cette ville.
Oui. Et il y avait une réunion del Potere Operaio Pisano, que c'était un groupe de l'extrême gauche de l'époque. Je crois que c'était 67. Et ça se voyait tout de suite que lui, il était le plus représentatif, le plus clair, etc. Il était ce que on pourrait appeler un leader naturel, en quelque sorte. Mais il avait déjà une histoire derrière lui. C'est-à-dire, lui, il a étudié à la Normale di Pisa, que c'est une grande école italienne. Il étudie la philosophie et il a eu un débat avec Palmiro Togliatti, il migliore, on l'appelait en Italie, c'est-à-dire le segretario du Parti Communiste mythique. Allora Palmiro Togliatti était à la Normale di Pisa a faire une conférence et Sofri s'est levé, il a levé son doigt et il a posé la question de la révolution communiste. Tu parles, mais quand est-ce qu'on fait la révolution et comment on l'a fait? Et Palmiro Togliatti, qui n'était pas habitué du tout à être interrompu, il s'est un petit peu vexé, puis il a répondu, et puis à la fin, le débat était très vivant, et il est allé à lui serrer la main. Et c'est comme ça que ça commence la légende d'Adriano Sofri en Italie. Après, j'ai connu mieux quand Lotta Continua a démarré vraiment, etc. Mais c'était, il avait cette capacité, qu'il a encore toujours, je crois, de savoir se mélanger aux gens. Tu le voyais dans une assemblée des ouvriers et c'était comme un ouvrier. D'ailleurs, il a eu le grand honneur que quand il y a eu une assemblée ouverte chez Fiat, en 1972, je ne me rappelle plus, où nous on avait le droit de parole comme Lotta Continua, la direction Fiat, c'est-à-dire Gianni Agnelli lui-même, il a imposé une seule condition, que ce soit pas Adriano Sofri qui parle.
N'importe
qui de Lotta Continua pouvait parler, mais il ne pouvait pas être Adriano Sofri.
Personne en Italie n'est tout à fait capable d'expliquer l'acharnement judiciaire concernant Adriano Sofri, acharnement judiciaire qui repose somme toute sur un seul témoignage, le témoignage de ce repenti tardif, puisque les faits remontent à 72 et que le témoignage date de 88, témoignage contradictoire, sans élément matériel aucun, qui fait que tout le monde sait bien que Sofri, Adriano Sofri, est innocent, d'Umberto Eco à Jacqueline Risset, de tous les intellectuels, tous les Italiens, un tant soit peu éclairés, qu'ils soient de gauche ou de droite, savent très bien que Sofri et ses deux compères, ses deux amis, sont innocents, ne sont pas les instigateurs ni les mandataires de l'assassinat de ce commissaire. Mais l'appareil italien là s'acharne et aimerait quand même que les choses n'aillent pas plus loin que ça. Voudrait s'acharner, mais en silence. Or, Adriano Sofri, eh bien, est un homme debout et qui parle.
Ça y est, là, on est entré aussi facilement que ça.
Donc toi, tu viens là régulièrement, chaque mois à peu près?
Pas chaque mois, un ou deux mois, ça dépend. On s'est connus en 1969.
Dès le début de l'État continua. Vous aviez quel âge en 69?
Moi, je suis né en 46, alors j'avais 23 ans. Lui, il a 4 ans plus que moi.
Il avait 30 ans.
Et après, c'est né l'État continua et bon.
Alors, bon, il faut replacer ça dans un contexte d'effervescence politique et historique maintenant, ça y est, hein, ça c'est devenu de l'histoire. Mais alors, à l'intérieur de l'État continua, on trouvait quoi comme tendance?
L'État continua, c'est lui le créateur. L'État continua, elle est née d'une façon assez bizarre. Il y avait des groupes d'étudiants en face de la Fiat qui donnaient un tract qui s'appelait la lotta continua.
La lutte continue.
La lutte continue. Et c'était fait par des gens tout à fait différents. Il y avait des gens qui provenaient du milieu syndical, des gens du milieu étudiant, etc. Puis il y a une coupure, une division. Une partie est devenue Potere Operaio, avec Tony Negri, qui en France vous connaissez bien, avec des autres comme Massimo Cacciari, etc. Et de l'autre côté, il y avait Lotta Continua. Alors nous, on s'est appelé Lotta Continua. Et puis, comme ça, c'est né cette espèce de groupe très informel. Et d'ailleurs, il est toujours resté très informel. Et ils ont produit une sorte de monstre merveilleux, de quelque côté.
Monstre merveilleux.
Merveilleux. Et il avait, de l'autre côté...
Bonjour.
Adriano Sofri.
Bonjour.
Bonjour.
Et Francesco Giorgini.
Ah, Francesco Giorgini, come va? Sono contento di vedere.
On se disait en entrant, si la prison avait fait un livre d'or depuis que vous êtes ici, il y aurait toute l'intelligentsia de la planète qui figurerait sur ce livre.
Je ne pense pas toute l'intelligentsia.
Mais disons
il y a, heureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent rien, qui ne connaissent rien à mon sujet et qui s'occupent de vraies tragédies. Ma situation est un peu triste, mais surtout grotesque. On dit grotesque?
Oui. Ah, on dit grotesque.
Oui. On doit dire grotesque.
Néanmoins, vous êtes là depuis 6 ans?
Du janvier 97. J'ai des jours qui sont très semblables l'un au prochain, très stupides. L'organisation pénitentiaire aujourd'hui est beaucoup plus stupide que mauvaise. Je peux rester dans ma pièce de 2 mètres pour 3, 2,5 peut-être. Mais j'ai une chambre à moi qui est le grand privilège. J'écris, je lis, j'écris beaucoup plus que je lis.
C'est le bénéfice de l'âge.
Oui. Et je me promène, je me souviens, je ne pense pas au futur, à mon futur, pas pour désespoir, mais peu d'intérêt. Je suis très intéressé au futur universel, peut-être pour la consolation qui vient de savoir que le futur universel n'est pas meilleur que mon personnel futur.
Les gens ne croient pas que vous êtes détenu, que vous êtes en prison, puisque vous publiez chaque jour dans la presse, vous êtes présent partout, sur la scène médiatique, sur la scène intellectuelle. Étant donné l'époque qui est à la délocalisation, à la détériorisation, on se dit, ben, il peut pas être quelque part, cet homme-là. Et surtout, il peut pas être enfermé quelque part, puisqu'il est partout.
Mm-hmm.
Ça confirme l'idée que le corps est enfermé, mais que l'esprit est libre. Bon.
Quand le corps est enfermé, l'esprit n'existe pas. C'est une simulation d'esprit. Ce qui vaut, c'est le corps. Je ne veux pas souligner explicitement que je me trouve en prison. Mais si je pense que chaque fois que quelqu'un lit mes articles, je ne sais pas les choses que j'écris, et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont écrits en prison, ça c'est une défaite pour moi.
De quoi vous vous nourrissez pour écrire ?
De rien, c'est pour ça que je peux écrire. Parce que si je me trouverais dehors avec mes pieds libres, alors je ne pourrais pas me prononcer, avoir des opinions sur tout le monde, quelconque sujet, j'écris. J'ai la radio, j'ai la télé.
Vous avez le monde.
Tous les détenus ont la télé. C'est une espèce de lumière permanente. Il n'y a pas de détenus qui éteignent la télé. C'est un des rumeurs fondamentales de la prison. Ainsi que je sais presque tout maintenant. Si j'étais libre, j'aurais une vie et je ne saurais presque rien. Ici, je sais tout, je sais les...
Vous savez tout, mais vous n'avez pas une vie.
Non, ce n'est pas une vie. Mais par, comme on dit, la consigne, c'est la consigne. En prison, vous ne devez pas vivre. Alors, vous êtes forcé de penser, d'écrire et tout ça. J'écris comme les autres détenus font de la gymnastique, vous savez. Il y a des détenus qui font de la gymnastique pendant tout le jour et même la nuit. Il y a un très grand nombre de détenus qui font de l'onanisme. J'ai pas l'âge, mais je le comprends très bien. C'est le résultat le plus évident de la réhabilitation sociale au moyen de la prison. C'est ça. Comme tous les animaux dans une cage, vous savez.
Pourquoi vous refusez la mansuétude de l'administration pénitentiaire qui vous autorise, si vous en faites la demande, de sortir quelques heures par jour comme d'autres détenus dans votre situation? Et ça, vous ne faites pas cette demande. Pourquoi?
Je n'ai aucune envie de faire des demandes en général dans ma vie. Je suis venu volontairement en prison. Et je serais très stupide à venir en prison et à chercher d'en sortir pour quelques heures, ou même d'en sortir. Peut-être si je ferais une demande de grâce, je pourrais sortir tout à fait de la prison. Mais je penserais avoir été très imbécile à venir en prison pour chercher d'en sortir.
C'est-à-dire que dans votre comportement, vous accusez. Chaque jour, c'est j'accuse.
Oui. Mais en me souvenant, en cherchant de me souvenir toujours, qu'il y a une partie de ridicule dans cette situation en général et dans ma situation en particulier, alors qu'il faut toujours avoir une distance de tout cela. Et j'accuse chaque jour, pas seulement pour mon cas, mais en général, j'accuse parce que je suis forcé à le faire, contraint de le faire, pas pour enthousiasme. Alors, la lutte continue peut-être, mais c'est une lutte anachronistique et forcée. Je préférerais ne pas continuer, et en particulier continuer, mais pas la lutte. Pourquoi toujours et seulement la lutte, même, je ne sais pas, la paresse, dormir. J'aime beaucoup dormir.
Oui, mais la lutte continue parce que la lutte, c'est la vie.
Je ne pense pas que la lutte c'est la vie et que la vie c'est la lutte. J'ai pensé ça et j'ai vécu de cette façon-là. Aujourd'hui, je pense que la vie c'est
la vie.
Même autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé au commencement que la vie c'est la lutte et vice versa. Et après ça, ils ont compris ou peut-être ils se sont résignés à voir que la vie c'est beaucoup de choses, même la lutte. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Quand j'étais très jeune, les chansons françaises m'ont formé. Alors si je suis un assassin ou je ne sais pas, un gros criminel politique, je pense qu'une partie de responsabilité va aux chansonniers françaises.
Brassens a écrit cette chanson, Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, et à l'époque, puisqu'on a à peu près le même âge, ça avait été un scandale pour ceux qui étaient, comme vous, engagés dans la lutte violente. Est-ce que vous étiez prêt à mourir pour des idées à l'époque?
Oui. Je pensais qu'on devait étudier d'être prêt à faire ça. Mais, vous savez, après ça, nous avons compris même que le destin très fréquent des hommes qui sont prêts à mourir pour des idées est de tuer pour des idées. Alors les personnes qui ont fini par tuer pour leur idée, ils avaient commencé pensant qu'ils étaient prêts à mourir
pour des idées. Vous voulez dire que quand on est prêt à mourir pour des idées, on est prêt à tuer pour des idées?
On devient facilement prêt à tuer pour des idées. C'est un vrai problème. Mais j'aimais avant ça et durant ça, Brassens et Brel, et les trompettes de la renommée, et les monuments aux colonels et tout ça. Il y avait même dans cet anarchisme une révolte, une rébellion, un esprit anti-autoritaire que nous aimions beaucoup, même à ce temps-là et même avant ce temps-là.
Et que vous aimez toujours?
Toujours. Alors, comme le Toll, c'est une espèce de retour à l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, je suis presque que sexagénaire. Mais je demandais de me renvoyer tous les disques et les cassettes de cette époque. Alors j'écoute chaque jour Barbara, je ne sais pas, Monique Morelli, Catherine Sauvage. Par exemple, j'ai aimé beaucoup parce que j'ai entré honteusement romantique, presque sentimental. J'aime beaucoup Barbara et sa voix de cristal et tout ça. Alors j'aime beaucoup, par exemple, Monique Morelli qui chante Carco. Il y en a beaucoup, comme au beau jour de 90 ans, par ces matins de printemps. Et...
Sur le banc de
mais
bois
vert. Mais rien n'était à sa place, même ton mais... nom dans la glace.
Et rien n'était à sa place, même nom sur la glace, à la place où tout s'efface, quoi qu'on fasse.
Toute trace.
C'est ça que vous écoutez.
J'ai encore rire, j'écris rire après tout. Je suis très préparé. Comme Berlusconi, vous savez.
Oui, il s'entraîne avant.
Berlusconi chante.
Ah ben voilà.
Même dans la campagne électorale, il chante les chansons françaises.
Ben voilà une chose qui vous rapproche.
Comme au beau jour de nos 20 ans, par ce clair matin de printemps, j'ai voulu revoir tout là-bas l'auberge au milieu des lilas. On entendait sous les branches les oiseaux chanter dimanche et ta chaste robe blanche paraissait guider mes pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom sur la glace, juste à la place où s'efface quoi qu'on fasse toute trace. Et je croyais presque entendre ta voix tendre murmurer « Viens plus près. » J'étais ému comme autrefois, dans cette auberge au fond des bois. J'avais des larmes plein les yeux, et je trouvais ça merveilleux. Durant toute la journée, dans la chambre abandonnée, depuis tant et tant d'années, je nous suis revus tous deux. Mais rien n'était à sa place, je suis resté tête basse à me faire dans la glace, face à face, la grimace. Enfin j'ai poussé la porte, que m'importe, et nini, c'est fini. Pourtant, quand descendu le soir, je suis allé tout seul m'asseoir sur le banc de bois vermoulu où tu ne revins jamais plus. Tu me paraissais plus belle, plus charmante, plus cruelle qu'aucune de toutes celles pour qui mon cœur a battu. Et je rentrais l'âme lasse, chercher ton nom sur la glace, juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Mais avec un pauvre rire, j'ai cru lire, après tout, on s'en fout.
Qui croirait en longeant les murailles de la prison Don Bosco à Pise, en Italie, qu'il y a un homme à l'intérieur qui fredonne en français ces chansons, cette chanson qu'on vient d'entendre chanter par Francis Carco ou bien Brassens et beaucoup d'autres. Eh bien, cet homme, c'est Adriano Sofri, qui a été condamné le 22 janvier 1997 à 22 ans de prison pour avoir, selon le tribunal, pour avoir, avec deux autres militants du mouvement, l'ex-mouvement Lota Continua, pour avoir commandé l'exécution d'un commissaire de police. Et ça a été une saga judiciaire invraisemblable. Il y a eu 7 procès successifs et les preuves sont tellement minces que, à l'unanimité, je le répète encore, les Italiens et dans le monde entier, Amnesty International entre autres, se doutent bien que cette affaire mérite d'être révisée. Mais Adriano Sofri, lui, tient bon, il est dans cette prison, il considère qu'il est séquestré et on lui a rendu visite avec Francesco, aussi bien à cause de cette condition qui est la sienne, c'est-à-dire cet homme qui dit « je continue ma bataille jusqu'à ce que la justice me soit rendue », mais aussi pour ses années d'expérience, lui qui dit « Nous avons contribué à changer le monde. Nous avons contribué à changer le monde. Et il continue de le faire puisque, je vous le disais, on lit ses articles régulièrement, chaque jour, chaque semaine, dans la presse italienne, alors qu'il est en prison. Son avis est important. Sa pensée est chargée de ses années. Et il nous parle aujourd'hui.
Je pense que nous avons terminé ensemble notre lutte, notre militance. Ça fait 30 ans déjà. Et nous avions à ce temps-là un problème qui était changé dans notre main, devant nos yeux, qui était ça. On devait décider de continuer les luttes, mais en se souvenant que ces luttes, même la lutte de classe, la lutte des sexes, la lutte entre une partie et l'autre du monde et tout ça, se réaliser, se jouer sur un théâtre qui était le Titanic, qui était le naufrage certain, qu'il y avait un iceberg devant nous, ou peut-être nous avions déjà touché l'iceberg. Alors, le problème aujourd'hui, sur le Titanic, il y a des luttes de classe. Il y a la première classe, la seconde, la deuxième classe, la troisième classe, les clandestins à bord et tout ça. Mais il y a le naufrage universel. Même la première classe va se perdre ses joyaux. Alors, ça c'est la raison pour laquelle je pense que si j'étais un garçon aujourd'hui New Global, j'essayerais toujours d'exprimer mes idées comme si je pensais que c'était possible de convaincre même la première classe. Même le Fonds monétaire international, même la Banque mondiale, je ne me fais pas d'illusions sur la possibilité de les convaincre, mais je pense que je dois parler comme si ça serait possible.
Je suis en train de penser à des auditeurs qui prendraient la radio en ce moment, qui entendent cette conversation, disent « Tiens, c'est intéressant, on est en train de parler de la lutte, de l'histoire des luttes en Italie, tiens, c'est intéressant. » Mais personne ne pourrait deviner, supposer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on est en prison, enfin c'est surtout vous qui êtes en prison, nous on est venus vous visiter, et vous êtes bel et bien en prison. Ce qui se dit là, ces mots qu'on entend là, sortent de la prison.
Je ne me préoccupe pas avec mon ridicule, parce que c'est pas mon ridicule, c'est le ridicule des gens qui me tiennent ici, et les raisons pour lesquelles me tiennent ici, la façon de laquelle ça se passe. Mais il y a une autre infériorité dans ma situation, qui dépend du fait que je peux dilapider mes jours, l'un après les autres, en écrivant sur les journaux, sur les livres, des préfaces, spécialement des préfaces. Chaque jour, il y a 5 ou 6 lettres qui me demandent des préfaces. Tout le monde a mon adresse, ils peuvent me demander des préfaces. Ou, je ne sais pas, interview et tout cela.
Tu as une cellule de 2 mètres sur 3? Où est-ce que tu mets ta documentation, tes bouquins?
C'est plein de papiers. C'est une situation incroyable. J'ai une autorisation particulière pour les livres dans ma cellule. C'est interdit pour les prisonniers. Pas interdit. N'est pas imaginé qu'on puisse.
Oui, la question se pose
j'ai
pas.
J'ai des centaines de livres
entassés dans la cellule.
Fumulés, même dans la bibliothèque. J'ai une espèce d'occupation de papier. Oui.
Arrivederci.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Bonne chance.
Merci à tous. C'est donc de larges extraits de cet entretien avec Adriano Sofri qu'on retrouvera un jour plus en longueur parce que il nous a dit vraiment des choses très précieuses. Merci à Bruno Giorgini et à Francesco Giorgini. Bruno, c'est le papa technique aujourd'hui, Patrick Henry et Benjamin Lagatinet. Assistant Coy Nguyen, assistante Anne de Giaferi, le répondeur c'est Christophe Imbert, le numéro c'est 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Un petit peu de pub.